Ils assirent les chevaliers et rentrent tout au bas bout de la table, plus près des portes que de l'estrade. Mur Blanc était pratiquement neuf en termes de château, ayant été élevé à peine une quarantaine d'années plus tôt par l'aïeul de son seigneur actuel. Le peuple de la région le surnommait la laiterie, car ses murailles, ses donjons et ses tours se composaient de belles pierres taillées blanches, prélevées dans les carrières du Val et transportées à grands frais par-dessus les montagnes. À l'intérieur, on trouvait des sols et des colonnes en marbre d'un blanc laiteux veiné d'or. Les solives au plafond étaient taillées dans des troncs de barral blancs comme l'os. Dunk n'aurait su imaginer le coût de tout cela. La grande salle n'était pas si vaste que d'autres qu'il avait connues cependant. Au moins, on nous a acceptés sous son toit, se dit Dunk en prenant place sur le banc entre Sœur Ménard Prune et Kyle le chat. Bien que n'ayant pas été invités, tous trois avaient été assez promptement accueillis au banquet. Refuser l'hospitalité à un chevalier le jour de ses noces portait malheur. Le jeune Sir Glendon avait toutefois rencontré plus de difficultés. Dunk entendit l'intendant de Lord Burpuy lui déclarer d'une voix de stentor «
Boulanfeu n'a jamais eu de fils ».
Le jouvenceau riposta avec ardeur et le nom de Sir Morgan d'Honestable fut cité à plusieurs reprises. Mais l'intendant demeurait inébranlable. Quand Sir Glendon porta la main à la poignée de son épée, une douzaine de gendarmes surgit, piques en main, et il sembla un instant que le sang coulerait. Seule l'intervention d'un grand chevalier blond du nom de Kirby Pym sauva la situation. Dunk se trouvait trop loin pour entendre, mais il vit Pym passer un bras autour des épaules de l'intendant et lui murmurer à l'oreille, en riant. L'intendant se rembrunit et adressa à Sir Glendon quelques mots qui firent virer le visage du jeune homme à l'écarlate. « On dirait qu'il va fondre en larmes », se dit Dunk en observant la scène. « Ça, ou tuer quelqu'un ?» Au terme de tout ce désordre, on admit finalement le jeune chevalier dans la grande salle du château. Le pauvre œuf n'eut pas autant de chance.
« La grande salle est réservée aux seigneurs et aux chevaliers »,
les avait informés avec Morgue, un sous-intendant, lorsque Dunk avait essayé de faire entrer le jeune homme.
« Nous avons dressé des tables dans la cour intérieure pour les écuyers, les palefreniers et les hommes d'armes. »
Si tu avais le moindre soupçon de son identité, tu l'aurais installé sur l'estrade, dans un trône rembourré. Dunk n'avait guère aimé la mine des autres écuyers. Quelques-uns étaient des gamins de l'âge de l'œuf, mais la plupart étaient plus vieux, des guerriers vétérans qui avaient depuis longtemps choisi de servir un chevalier plutôt que d'en devenir un eux-mêmes. Mais avaient-ils eu le choix ? L'état de chevalier exigeait plus que de l'esprit de chevalerie et une habileté aux armes. Il demandait également une monture, une épée et une armure, et tout cela coûtait cher. « Surveille ta langue, » recommanda-t-il à l'œuf avant de le laisser en leur compagnie. « Ce sont des adultes, ils supporteront mal tes insolences. Assieds-toi, mange et écoute. Tu pourrais apprendre des choses. » Pour sa part, Dunk s'estimait déjà heureux d'avoir quitté le soleil cuisant avec une coupe de vin face à lui et l'occasion de se remplir la panse. Même un chevalier errant peut se lasser de ruminer une demi-heure chaque bouchée de nourriture. De ce côté, au bas bout, la chair serait ordinaire, plutôt que recherchée, mais elle ne ferait pas défaut. Le bas bout convenait tout à fait à Dunk. Mais l'orgueil du paysan est la honte du nobliau, comme disait l'ancien.
« Ce ne peut être la place qui m'est due !»
déclara avec emportement Sir Glendon Bull au sous-intendant. Il avait revêtu pour le banquet un justaucorps propre, un vieux vêtement de belle allure, avec de la dentelle dorée aux manchettes et au col, et les chevrons rouges à blason blanc de la maison Bull, brodée en travers de son torse. « Sais-tu qui était mon père ?»«
Un noble chevalier et un puissant seigneur, je n'en doute point, »
répondit le sous-intendant.
« Mais il en va de même pour nombre de gens ici. Je vous prie de prendre place ou congé, sœur. Cela m'est tout égal. »
Le jouvenceau finit par s'asseoir au bas bout de la table, avec tous les autres, la bouche morose. La longue salle blanche se remplissait, et les chevaliers se pressaient au fur et à mesure sur les bancs. L'assistance était plus importante que Dunk ne s'y attendait, et apparemment, certains invités venaient de très loin. L'œuf et lui n'avaient plus côtoyé autant de seigneurs et de chevaliers depuis le champ de Sandreguet, et il n'y avait aucun moyen de deviner qui d'autre risquait de se présenter. « Nous aurions dû rester parmi les haies, à dormir sous les arbres, si on me reconnaît. » Lorsqu'un serviteur déposa une miche de pain noir sur la pièce d'étoffe placée devant chacun d'eux, Dunk lui fut reconnaissant de lui changer les idées. Il fendit la miche dans le sens de la longueur, évida la moitié inférieure pour en faire un tranchoir, et mangea la moitié supérieure. Elle était rassise, mais comparée à son bœuf salé, c'était un délice. Au moins, on ne devait pas la tremper dans de la bière, du lait ou de l'eau, afin de l'attendrir suffisamment pour pouvoir la mastiquer.
« Sir Duncan, vous paraissez attirer une attention considérable, » fit observer Sir Ménard Prune,
tandis que Lord Vuiver et sa suite passaient avec ostentation pour aller prendre des places de grand honneur au haut bout de la salle.
« Ces demoiselles sur l'estrade semblent incapables de détacher les yeux de vous. Je parierais qu'elles n'ont jamais vu un homme d'une telle taille. Même assis, vous dépassez d'une demi-tête n'importe qui dans la salle. »
Dunk arrondit les épaules. Il avait l'habitude d'être dévisagé, mais cela ne signifiait pas qu'il l'appréciait. « À quel regard ? » ?»«
C'est le vieil Orok là-bas, sous l'auvent, » nota Sir Ménard. « On le qualifie de colosse, mais il me semble que sa bedaine est ce qu'il a de plus énorme. Vous êtes un bougre de géant à côté de lui. »«
Certes, sœur, »
intervint un de leurs compagnons sur le banc, un homme hâve, maussade, vêtu en gris et vert. Il avait de petits yeux madrés, proches l'un de l'autre, sous de fins sourcils arqués. Une barbe noire soignée lui encadrait la bouche, pour compenser son front dégarni.
Dans un domaine tel que celui-ci, votre taille devrait suffire à faire de vous un des plus formidables concurrents.
Jamais t'ai laissé dire que la brute de Bracken viendrait peut-être, commenta un autre homme plus loin sur le banc.
Je ne crois pas, répondit l'homme en vert et gris. C'est une simple joute pour célébrer les noces de sa seigneurie. Un assaut de lance dans la cour pour marquer l'assaut sous les draps. Ça n'en vaut guère la peine pour des gens comme Otto Bracken.
Sir Kyle le Chat but une gorgée de vin.
Je parierais que Messire de Beurrepuis n'entrera pas sur les lices non plus. Il encouragera ses champions depuis sa loge de seigneur, à l'ombre.
En ce cas, il verra ses champions tomber, se vanta Sir Glendon Bull. Et pour finir, il me remettra son œuf.
Sir Glendon est le fils de Boule en Feu, expliqua Sir Kyle au nouveau venu. Nous ferez-vous l'honneur de dire votre nom, sœur.
Sir Uthor en Verfeuille, le fils de personne d'important. Les vêtements d'en Verfeuille étaient de bonne étoffe, propres et bien entretenus, mais de coupe simple. Une broche d'argent en forme d'escargot agrafait sa cape.
« Si votre lance se rapporte à votre langue, Sir Glendon, vous pourriez même donner du fil à retordre au grand gaillard ici présent. »
Sir Glendon jeta un coup d'œil à Dunk tandis qu'on versait le vin.
« Si nous nous rencontrons, il tombera. Sa taille m'importe peu. »
Dunk regarda un serveur remplir sa coupe de vin.
« Je me débrouille mieux avec une épée qu'une lance, reconnut-il, et mieux encore avec une hache de bataille.
Y aura-t-il une mêlée, ici ? Sa taille et sa force joueraient en sa faveur dans une mêlée, et il savait qu'il pouvait rendre coup pour coup. La joute était un autre problème.
« Une mêlée à un mariage ?»
Sir Kyle parut scandalisé.
« Oh, ce ne serait pas convenable !»
Sir Ménard laissa échapper un petit rire. « Tout mariage est une mêlée. N'importe quel homme marié pourra vous le confirmer. » Sir Uthor rit aussi. « Il n'y a que la joute, je le crains, et en sus de l'œuf de dragon, Lord Burpuis a promis 30 dragons d'or aux perdants de la dernière rencontre et 10 à chacun des chevaliers défaits lors de la manche précédente. »« 10 dragons, ce n'est pas si mal, » pensa Dunk. « 10 dragons lui paieraient un palefroid, si bien qu'il n'aurait pas besoin de monter tonnerre, sinon au combat. » 10 dragons achèteraient une armure de plate pour l'œuf et un pavillon de chevalier convenable brodé de l'orme à l'étoile filante de Dunk. 10 dragons signifieraient de l'oie rôti, du jambon et de la tourte de pigeon. Il y a également des rançons à percevoir pour ceux qui remportent leur assaut, expliqua Sir Uthor tout en évidant son tranchoir. Et... « J'ai entendu dire par la rumeur que certains placent des paris sur les rencontres. Lord Burpuis lui-même n'est guère homme à courir des risques, mais parmi ses invités, il en est qui sont de gros parieurs. » À peine avait-il parlé qu'Ambrose Burpuis fit son entrée, au son d'une fanfare de trompette partie de la galerie des ménestrels. Dunk se remit debout avec tous les autres, tandis que Burpuis escortait sa nouvelle épouse jusqu'à l'estrade, bras dessus, bras dessous, le long d'un tapis myrien ornementé. La donzelle avait 15 ans et était tout juste fleurie, le seigneur son époux 50 et tout juste veuf. Elle était rose, il était gris. Sa traîne de mariée s'étirait derrière elle en broderie ondée de vert, de blanc et de jaune. La parure semblait si chaude et si lourde que Dunk se demanda comment elle pouvait l'endurer. Lord Burpuis donnait lui aussi l'impression d'avoir chaud et d'être lourd avec ses bajoues massives et ses rares cheveux blonds pâles. Le père de la mariée la suivait de près, main dans la main avec son jeune fils. Lord Frey du Pont était un homme mince, élégant, en bleu et gris, son héritier, un garçonnet de 4 ans dépourvu de menton, dont le nez dégoulinait de morve. Suivaient les seigneurs Costain et Risley, avec ces dames leurs épouses, filles de la première épouse de Lord Burpuis. Venaient ensuite les filles de Frey, avec leurs maris respectifs. Puis ce furent Lord Gorman Peak, les seigneurs Petitbois et Chaunet, divers moindres seigneurs et chevaliers fieffés. Parmi eux, Dunk aperçut Jehan le Ménétrier et Aline Shancock. Lord Aline semblait pris de boisson, bien que le banquet n'eût pas encore véritablement commencé. Le temps que tous aient gagné l'estrade d'un pas alerte, le haut bout de la table était aussi encombré que les bancs. Lord Burpuis et son épouse s'assirent sur de dodus coussins de duvet dans un trône double en chêne doré. Le reste se carra sur de hauts fauteuils aux bras plaisamment sculptés. Sur le mur, derrière eux, 2 immenses bannières pendaient des solives. Les tours jumelles de Frey, bleues sur gris, et l'ondée vert, blanc et jaune des Burpuis. Il incomba à Lord Frey de porter les toasts.
« Le roi »
débuta-t-il simplement. Sir Glendon brandit sa coupe de vin au-dessus de la cuvette d'eau. Dunk fit teinter la sienne contre elle et contre celle de Sir Uthor ainsi que des autres. Ils burent.
« Lord Burpuis, notre gracieux hôte !»
clama ensuite Frey.
« Puisse le Dieu Père lui accorder longue vie et de nombreux fils !»
Ils burent à nouveau.
« Lady Burpuis, l'épouse Pucelle, ma fille chérie, puisse la déesse mère la rendre fertile !»
Frey lança à la jeune femme un sourire. J'exige un petit-fils avant le terme de l'an. Des jumeaux me conviendraient encore mieux. Aussi barade bien le beurre ce soir, ma douce. » Les rires résonnèrent contre les poutres et les invités burent encore une fois. Le vin était fort, rouge et sucré. Puis Lord Frey annonça « Je bois à la main du roi, Brynden Rivers. Puisse la lampe de la déesse Aïeul éclairer son chemin vers la sagesse. » Il leva haut sa coupe et but, en même temps que Lord Burpuis et son épouse et les autres sur l'estrade. Au bas bout de la table, Sir Glendon retourna sa coupe pour en renverser le contenu sur le sol.
« Triste gaspillage de bon vin, » commenta Ménard Prune.
« Je ne bois pas au fratricide, » répliqua Sir Glendon. « Lord Fressanglant est un sorcier et un bâtard. »«
Né bâtard, » concéda avec bonhomie Sir Uthor, « mais son royal père l'a légitimé sur son lit de mort. »
Il but à grands traits, de même que Sir Ménard et bien d'autres dans la salle. Presque autant avaient baissé leur coupe, ou l'avaient retournée, à l'instar de Boule. Celle de Dunk lui pesait lourdement dans la main.
« Combien Dieu, Lord Fressanglant, possède-t-il » demandait la devinette.
« 1000, et rien qu'un. »
Les toasts succédèrent aux toasts, proposés tantôt par Lord Frey, tantôt par d'autres. Ils burent au jeune Lord Tully, seigneur liege de Lord Burpuis, qui s'était excusé de ne pouvoir assister au mariage. Ils burent à la santé de Léo Lépine, sire de Haut-Jardin, que la rumeur disait souffrant. Ils burent à la mémoire de leur mort valeureux. Certes, songea Dunk en se souvenant, je boirai volontiers à leur santé. Sir Jehan le Ménétrier lança le toast final.
« À mes braves frères, je sais qu'ils sourient ce soir. »
Dunk n'avait pas eu l'intention de boire autant avec des joutes le lendemain, mais on remplissait de nouveau les coupes après chaque toast, et il se découvrit assoiffé.
« Ne jamais refuser une coupe de vin ou une corne de bière, » lui avait dit un jour Sir Harlan. « Un an pourrait passer avant que tu en voies une autre. »
Il aurait été discourtois de ne pas boire à la santé de la mariée et de son époux, se justifia Dunk, et dangereux de ne pas boire au roi et à sa main, parmi tous ces étrangers. Miséricordieusement, le toast du Ménétrier était le dernier. Lord Burpuis se leva lourdement pour les remercier d'être venus et promettre de belles joutes pour le lendemain.
« Que le banquet commence !»
Au haut bout de la table, on servit du cochon de lait, un paon rôti dans son plumage, un grand brochet dans une croûte d'amande broyée. Pas une bouchée de tout cela n'atteignit le bas bout. En lieu de cochon de lait, ils eurent du porc salé, humecté au lait d'amande et agréablement poivré. En lieu de paon, des chapons croustillants, dorés à point et farcis d'oignons, de fines herbes, de champignons et de châtaignes grillées. Plutôt que du brochet, ils mangèrent des portions de morue blanche dans une croûte pâtissière, avec un genre de sauce brune savoureuse que Dunk ne sut pas tout à fait identifier. Il y eut en complément de la bouillie de pois, des navets au beurre, des carottes arrosées de miel, et un fromage blanc bien fait qui sentait aussi fort que bénisse au bouclier brun. Dunk se régala et se demanda tout du long ce qu'on servait à l'œuf dans la cour. À tout hasard, il glissa un demi-chapon dans la poche de sa cape, avec quelques quignons de pain et un peu de l'odorant fromage. Pendant qu'il mangeait, vielles et cabrettes emplissaient la salle d'airs enjoués, et la conversation s'orienta vers les joutes du lendemain.
« Sir Franklin Frey jouit d'une belle réputation le long de la Verfurk, » estimait Uthor en Verfeuil, qui semblait bien connaître ses héros régionaux. « C'est lui, là-bas, sur l'estrade, l'oncle de la mariée. Lucas Kenenny vient de Sorcefangier. Il ne faudrait pas le négliger. Non plus que Sir Mortimer Tourbier, de la presqu'île de Claquepince. Par ailleurs, tout ceci devrait être un tournoi de chevaliers de maison et de héros de village. Kirby Pym et Galtry Levert sont les meilleurs d'entre eux, même si aucun d'eux n'égale le gendre de Lord Burpuis, Tom Eddle le Noir. Un mauvais drôle, celui-là. Il a remporté la main de la fille aînée de sa seigneurie en tuant trois des autres prétendants de la belle, raconte-t-on, et a une fois désarçonné le sire de Castral Rock.
Quoi? Le jeune Lord Tybalt? Demanda Sir Ménard.
Non, le vieux lion gris qui est mort lors du printemps.
C'est ainsi qu'on parlait de ceux qui avaient succombé au cours du fléau de printemps.
Il est mort lors du printemps.
Ils étaient des dizaines de milliers à être morts lors du printemps, et parmi eux un roi et deux jeunes princes.
Ne prenez pas Sir Bufford Bulwer à la légère, intervint Kyle le chat. Le vieil Auroch a oxy 40 hommes sur le champ d'herbe rouge.
Et le décompte monte tous les ans, nota Sir Ménard. Le temps de Bulwer est révolé. Regardez-le, 60 ans passés, mou, gras, et pratiquement aveugle de l'œil droit.
Ne vous donnez pas la peine d'écumer la salle pour trouver le champion, déclara une voix derrière Dunk. Me voici, sœur, admirez de tous vos yeux.
Dunk se retourna pour découvrir Sir Jehan le Ménétrier, qui le dominait, à un demi-sourire aux lèvres. Son pourpoint de soie blanche avait des manches à crever, doublées de satin rouge, si longues que leurs pointes pendaient plus bas que ses genoux. Une lourde chaîne en argent s'arquait en travers de son torse, cloutée d'énormes améthystes sombres, de couleur assortie à celle de ses yeux.
« Sa chaîne vaut autant que la totalité de mes biens, » se dit Dunk.
Le vin avait coloré les joues de Sir Glendon et enflammé ses boutons.
« Qui êtes-vous pour prononcer de telles vantardises ?»«
On m'appelle Jehan le Ménétrier. »
« Êtes-vous musicien ou guerrier ?»«
Il se trouve que je peux faire chanter de belle façon la lance autant que l'archet résiné. » Tout mariage a besoin d'un chanteur et chaque tournoi d'un chevalier mystère. Puis-je me joindre à vous?
Burpuis a eu la bonté de me placer sur l'estrade, mais je préfère la compagnie de mes camarades chevaliers errants à celle de grosses dames en rose et de vieillards.
Le ménétrier donna une claque sur l'épaule de Dunk.
« Ayez l'obligeance de vous pousser, Sir Duncan. »
Dunk obtempéra. « Vous arrivez trop tard pour le repas, sœur. »«
Peu importe. Je sais où sont les cuisines de Burpuis. Il reste encore du vin, j'espère. »
Le ménétrier embaumait les oranges et les citrons, avec par-dessous un soupçon de quelque étrange épice d'Orient. La muscade, peut-être. Dunk n'aurait pu l'assurer. Que connaissait-il à la muscade ?